Voix Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, présidentielle à Madagascar, les deux ex-chefs d'État, Ange Rajoel et Marc Ravalomanan, s'affronteront au second tour. Au moins 2 morts et 29 blessés lors d'un attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. La Mauritanie célèbre le 58e anniversaire de son indépendance. Et puis la tension ne faiblit pas entre la Russie et l'Ukraine. Kiev brandit la menace d'une guerre totale. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, à Madagascar, les résultats officiels de l'élection présidentielle du 7 novembre confirment un second tour entre Ange Rajoel et Marc Ravalomanan. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes pour fraude. Abdourahmane Dia.
Les deux ex-chefs d'État et frères ennemis vont se retrouver dans un nouveau face-à-face le 19 décembre. D'ailleurs, la Cour qui a proclamé les résultats définitifs du premier tour les appelle à éviter les provocations. Ange Rajoel est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanan qui a obtenu 35,35%. Un autre ancien président, R. Rajonarimampian, est lui éliminé de la course. La Cour a rejeté sa demande d'annuler le premier tour, dénonçant des fraudes. La Haute Cour constitutionnelle a accompli son travail selon l'équité et la droiture, a insisté Jean-Éric Rakoto Arissou, président de la Haute Cour. Marc Ravalomanan et Ange Rajoel ont été au cœur d'une grave crise politique en 2009 qui s'était soldée par la mort d'une centaine de personnes et la démission forcée du président Ravalomanan. L'armée avait alors confié au jeune opposant Ange Rajoel le pouvoir. Les deux hommes ont ensuite été interdits de se présenter à la présidentielle de 2013. C'est dire que ce second tour aura un parfum de revanche.
Au Cameroun, un attentat kamikaze attribué à Boko Haram a fait 2 morts et au moins 29 personnes blessées. Il a été perpétré par une femme à Amchidé, ville camerounaise de la région de l'extrême nord à la frontière du Nigeria. Plus de précisions avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Les deux morts sont les femmes kamikazes, auteurs de l'attentat de ce matin, peu avant 8h30, temps universel. La première s'est fait exploser, non loin de la place du marché de Amchidé, a rapporté à VOA Afrique, une source de sécurité de la région de l'extrême nord. La même source précise que la seconde femme kamikaze, qui s'apprêtait à faire exploser sa charge, a été abattue par les éléments du bataillon d'intervention rapide, l'unité antiterroriste de l'armée camerounaise déployée dans cette partie du pays pour combattre Boko Haram. L'attentat de ce matin a aussi fait 29 blessés au sein de la population, ont confirmé des sources médicales. Le 14 novembre dernier, un combattant de Boko Haram, originaire de Amchidé, avait été capturé par les membres d'un comité de vigilance dans le village de Gouzoudou, à l'extrême nord du Cameroun. La ville de Amchidé n'avait plus enregistré d'attentats depuis décembre 2017, mais plus de 3/4 de la population ont déserté la localité. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Toujours au Cameroun, un avocat a été brièvement enlevé à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Ben Soufou, conseiller national juridique du Social Democratic Front, le SDF, le principal parti d'opposition, a été enlevé alors qu'il venait de rentrer chez lui. Sa libération a été confirmée par le chargé de la communication du SDF. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a déclaré que Boko Haram devait être éliminé de la surface de la terre. Ce sont ses termes. En campagne pour sa réélection, le président nigérian a tenu la réunion de l'état-major de l'armée à Maïdougouri, berceau de Boko Haram. La semaine dernière, une centaine de soldats ont été tués dans un assaut contre une base militaire revendiquée par une faction affiliée au groupe État islamique. D'ailleurs, N'Djamena accueille demain un mini-sommet à huis clos des chefs d'État de 3 pays du bassin du lac Tchad engagés dans la lutte contre Boko Haram, le regain d'activité des djihadistes au Nigeria et au Niger sera au centre de cette rencontre. Eric Manirakiza.
Les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby du Tchad doivent décider d'une action rigoureuse à mettre en place pour contenir Boko Haram. Rien n'a filtré sur les détails de cette rencontre à huis clos, mais la présidence tchadienne annonce qu'un communiqué devrait être publié à la fin. Les armées du Tchad, du Niger et du Nigeria et du Cameroun opèrent dans la zone du lac Tchad au sein de la force mixte multinationale. Aujourd'hui, pendant la réunion annuelle des hauts gradés de l'armée nigériane à Maïdougouri, le président Buhari a déclaré que le groupe islamiste doit être éliminé de la surface de la terre. Depuis juillet, les djihadistes ont mené au moins 17 attaques contre des bases militaires dans la région du lac Tchad. Au moins 44 soldats ont été tués mi-novembre à Matélé, dans le nord-est du Nigeria. La faction qui a prêté allégeance au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats en une semaine autour du lac Tchad.
Suite du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a mis en cause les chefs de l'armée qui ont témoigné contre lui. Et au troisième jour de sa comparution, 84 accusés sont jugés devant le tribunal militaire à Ouagadougou depuis le début du procès en février, dont le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. En Côte d'Ivoire, Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que la restitution d'une centaine d'œuvres d'art allait être demandée à la France. Cette déclaration fait suite à l'annonce le 23 novembre dernier par le président français Emmanuel Macron de la restitution au Bénin de 26 chefs-d'œuvre pillés pendant la période coloniale. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête d'indépendance en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a défendu sa politique de fermeté vis-à-vis des islamistes. Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat s'achèvera en 2019, a mis en garde contre l'influence du parti islamiste Tewassoul, première formation de l'opposition en Mauritanie. Il a dénoncé les dangers de l'islam politique. Nous reviendrons sur cette fête de l'indépendance et le massacre de 28 officiers noirs en seconde partie de cette édition. Au Nigeria, une quinzaine de médias ont lancé aujourd'hui un programme commun de lutte contre la désinformation avant la présidentielle de février, où les principaux partis politiques s'accusent mutuellement de diffuser de fausses nouvelles. Le projet Cross Check Nigeria est réalisé en collaboration avec le Centre international du journalisme d'enquête d'Abuja et First Draft, une ONG britannique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président ukrainien Petro Poroshenko a évoqué la menace d'une guerre totale avec la Russie qui a, selon lui, augmenté drastiquement sa présence militaire à la frontière. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Je ne veux pas que quelqu'un pense que ce sont des jeux d'enfants. L'Ukraine fait face à la menace d'une guerre totale avec la Fédération russe, a lancé le président ukrainien. Petro Poroshenko a ajouté que le nombre de chars dans des bases russes le long de la frontière a triplé et le nombre de soldats a augmenté. Il a fait aussi état d'une présence militaire russe renforcée en Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014. Le président Donald Trump a déclaré que le rapport que ses conseillers à la sécurité nationale doivent lui remettre sera déterminant sur sa volonté de rencontrer ou pas le président Vladimir Poutine. La Maison-Blanche avait pourtant confirmé la tenue de la rencontre en fin de semaine en marge du G20 en Argentine. Il s'agit de la première montée de tension entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. À l'époque, le conflit armé entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes avait fait plus de 10 000 morts.
Nouvel attentat en Afghanistan. Au moins une personne a été tuée et 12 autres blessées lors d'un attentat à la voiture piégée suivi d'un échange de tirs qui a visé une compagnie de sécurité privée britannique dans l'est de Kaboul. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a prêché aujourd'hui l'amitié avec le voisin et rival indien après avoir annoncé l'ouverture prochaine d'un couloir sécurisé permettant aux Sikhs d'Inde de se recueillir au mausolée du fondateur de leur religion dans l'est du Pakistan. Nous devons enterrer le passé, a affirmé Imran Khan, alors que l'Inde commémore cette semaine le 10e anniversaire des attentats de Bombay, attribués à un groupe extrémiste basé au Pakistan. Et puis le Brésil n'accueillera finalement pas la COP25 en 2019 en raison de restrictions budgétaires et du processus de transition avec la nouvelle administration qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères brésilien. Le président élu Jair Bolsonaro a dénoncé hier un alarmisme climatique dans une tribune publiée dans le quotidien Gazeta do Povo. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Au Cameroun, la fuite des capitaux a déjà causé à l'économie une perte d'environ 1500 milliards de francs CFA en 2018. C'est ce que révèle l'Agence nationale pour les enquêtes financières. Pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, cette institution s'unit avec la Banque mondiale afin de doter le budget camerounais 2019 d'un arsenal juridique renforcé. Cette disposition devrait avoir un impact positif sur l'économie nationale. La Zambie demande aux développeurs intéressés d'implanter une dizaine de centrales solaires d'une capacité combinée de 200 MW, d'après l'agence Ecofin. Cet appel a déjà reçu un écho favorable du côté du développeur indépendant d'énergie, Enel Green Power, qui implante actuellement 5 centrales éoliennes d'une capacité totale de 700 MW en Afrique du Sud. Terminons avec le Mozambique qui a reçu environ 120 millions de dollars en faveur de son agriculture entre 2007 et 2017 de la part de la Banque africaine de développement. La BAD affirme que près de 240 000 personnes ont bénéficié d'une amélioration dans leur activité agricole et 25 000 producteurs ont été formés à des technologies agricoles améliorées. Les fonds ont aussi permis de construire et de réhabiliter 90 km de routes dans les zones de production agricole. En outre, plus de 16 000 hectares de terres agricoles ont amélioré leur gestion de l'eau.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Mamelodi a assuré en préliminaire de la Ligue des Champions.
Oui, dans les premiers matchs du jour, le champion d'Afrique 2016, Mamelodi Sundowns, a tenu son rang en ramenant un précieux succès de Guinée équatoriale contre Leones Vegetarianos 2-0. Brocky à la 10e et Zouané à la 77e ont permis aux Sud-Africains de prendre une solide avance avant la manche retour dans une semaine à domicile. En déplacement aussi, le club africain est en revanche resté muet au Rwanda contre l'APR 0-0.
Ce tour préliminaire a commencé hier.
Entre autres matchs, le stade malien a soigné son entrée en s'imposant 1-0 contre le stade centrafricain. Les Camerounais de Coton Sport se sont en revanche mis en difficulté en s'inclinant 3-1 au Burkina Faso sur le terrain de l'ASFB. Le CS Constantine d'Algérie a été accroché à domicile par les Gambiens de Gamtel 0-0. Le Jaraf Dakar a réussi son retour sur la scène continentale en s'imposant 1-0 face au Togolais de Koroki. L'IR Tanger s'est contenté du service minimum 1-0 à domicile face au Tchadien d'Elect Sport.
20 agents de sécurité vont accompagner le Raja à Kinshasa.
Après sa victoire 3-0 contre l'AS Vita Club à Casablanca en finale allée de la Coupe CAF, les joueurs du Raja disent avoir reçu plusieurs menaces des Congolais sur leur compte Facebook. À la fin de la rencontre, Moussine Lajou s'est vu infliger un carton rouge pour agression sur un joueur congolais. Les Verts marocains s'envoleront demain pour Kinshasa à travers un avion réservé au club à cette occasion. De la nourriture sera transportée du Maroc et des cuisiniers feront aussi le déplacement au Congo.
Le verdict est tombé pour Issa Hayatou et son ancien secrétaire général.
Et oui, l'ex-patron de la CAF et son secrétaire général, le Marocain Hicham El Amrani, ont été condamnés chacun à environ 24,5 millions d'euros d'amende par la Cour économique du Caire. Une sentence prise par contumace en l'absence des deux anciens dirigeants. Cette condamnation fait suite à la signature d'un contrat d'un milliard d'euros noué en septembre 2016 entre la CAF et Lagardère Sport au sujet des droits médias et marketing du football africain pour la période 2017-2018. Les deux hommes sont accusés d'avoir contracté cet accord en violation des règles de la concurrence, contrevenant ici à la loi égyptienne où se situe le siège de la CAF.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La Mauritanie célèbre aujourd'hui, 28 novembre, l'anniversaire de son indépendance, obtenue en 1960. À noter que cette date correspond aussi à un autre anniversaire, celui-là tragique. Le 28 novembre 1990, 28 officiers négro-mauritaniens ont été torturé et pendu à la base militaire d'Inal. 28 ans après, cette affaire n'a jamais été élucidée par les gouvernements successifs. Pour un rappel de ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint Kadiata Malik Diallo, députée à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
Il y avait d'abord eu, depuis septembre 90, l'arrestation de centaines de Noirs mauritaniens, civils et militaires. Certains de ces militaires ont été transportés à Inal. Et à la veille du 28 novembre, le 27 donc au soir, après plusieurs séances de torture, il y avait déjà eu des morts. Et cette soirée-là, les geôliers ont décidé de sacrifier 28 soldats négro-africains pour la fête de l'indépendance. Et c'est au hasard qu'ils les ont numérotés de 1 à 28 et ils les ont exécutés par pendaison. Les 28 ont été comptés, numérotés 1 à 28 et pendus.
28 ans après, est-ce que l'État mauritanien a jamais mis la main sur les auteurs de ces pendaisons?
Non, absolument pas. D'abord, du temps de Maawiya, Wilfried Ahmed Taya, c'est au cours de son régime qu'il y a eu d'ailleurs ces événements. Lui, c'était plutôt la négation. Il s'agissait plutôt d'une mutinerie tantôt d'une tentative de coup d'État et qu'il y a eu des affrontements au sein des casernes et qu'il y a eu des morts. C'est un peu la version, bien qu'il a été obligé quand même de verser une modique pension aux ayants droit. Mais malgré tout, Maawiya avait quand même diligenté une enquête militaire dont le rapport est gardé secret défense jusqu'à présent. Et après Maawiya, c'est Sidi Ould Cheikh Abdallah qui a initié un processus qui aurait pu déboucher sur quelque chose d'intéressant parce qu'il a commencé par organiser des journées de conseil dans lesquelles le dossier, le problème a été posé et les gens étaient en train de rechercher quelle est la meilleure approche pour rechercher la solution. Malheureusement, il y a eu le coup d'État contre Sidi Ould Cheikh Abdallah et moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est parce que Sidi Ould Cheikh Abdallah avait initié ce processus de recherche de solution que probablement les militaires comme Mohamed Abdelaziz et compagnie ont décidé, entre autres raisons, de destituer Sidi Ould Cheikh Abdallah. Ould Abdelaziz lui a trouvé une pernicieuse manière de parler d'un règlement en associant les victimes, les rescapés de prison, les veuves et tous ceux qui pouvaient être mis dans ce sac, d'accepter qu'il aille faire une prière à Kaïdi et ensuite de verser un montant en guise de réparation pour les massacres. Mais jamais il n'a accepté que le dossier soit traité sous l'angle de la justice. Et pire, Ould Abdelaziz a, dans un accord avec les victimes, mentionné que celui qui perçoit cette indemnisation renonce définitivement à porter plainte et que personne d'autre ne le fera à sa place, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur. Donc, il a verrouillé tout ce qui pouvait être posé comme une voie de recours, à la fois au plan interne et à l'extérieur.
Kadiata Malik Diallo, députée à l'Assemblée nationale à Nouakchott.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Et cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur les violences contre les femmes. La journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, c'était le 25 novembre, l'occasion de dresser un état des lieux. Plus de la moitié des femmes assassinées dans le monde en 2017 ont été tuées par leurs compagnons ou des membres de leur famille. Le domicile est donc l'endroit le plus dangereux pour une femme. Et d'après l'ONU, c'est en Afrique que les taux sont les plus élevés. Comment expliquer l'ampleur des violences conjugales sur le continent? La justice protège-t-elle suffisamment les victimes? Comment impliquer les hommes dans les solutions? On en discute ce jeudi à 19h30, temps universel.
En Côte d'Ivoire, le mois de novembre qui s'achève a connu plusieurs remous au niveau social. Une partie du personnel médical et des enseignants sont en grève. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À Abidjan, les précisions du correspondant de la VOA, Georges Ibrahim Tunkara.
Le 5 novembre dernier, à l'appel de la Cordisanté, la coordination des centrales syndicales de la santé, des milliers de travailleurs sont allés en grève d'une semaine pour réclamer au du gouvernement la satisfaction de leurs revendications. Entre autres, le paiement de primes d'incitation, des indemnités de logement et une revalorisation des salaires. Un mouvement qui est venu fragiliser la trêve sociale conclue en août 2017 entre les centrales syndicales et le gouvernement. Boko Kwao, porte-parole de l'accord e-santé.
Nous, au niveau du secteur santé, un an après, nous avons observé le mot d'ordre des grèves parce qu'il y avait un malaise. Et bien avant nous, beaucoup d'autres administrations ont donc observé des mouvements de grève. Actuellement, même où on vous parle, il y a des administrations qui sont en grève. Concernant donc le secteur santé, nous avions des revendications en dehors, donc des points qui étaient contenus dans la trêve sociale et qui n'ont pas été traités. C'est pour cela que nous sommes rentrés en mouvement de grève.
À l'issue d'une assemblée générale tenue le week-end dernier, les agents de la santé ont décidé de donner du temps au gouvernement pour trouver une suite à leurs revendications. 2 mois de répit avant un nouvel éventuel mouvement de mécontentement.
Si nous évoluons jusqu'en février 2019 sans qu'il y ait de solution, c'est que vraiment donc il y a une mauvaise foi de la part de l'employeur qui est donc l'État. Et donc ça serait dommage et nous serons obligés donc d'aviser au niveau donc de la base et ce que la base va décider, nous allons l'appliquer.
Théodore Zadi Nyanya est le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, une plateforme signataire en août 2017 de la trêve sociale avec le gouvernement. Pour lui, la trêve n'est pas rompue, mais elle n'exclut pas quelques mouvements d'humeur.
C'est tout à fait normal que certains fonctionnaires, estimant qu'au niveau sectoriel, ils ont des préoccupations, qu'ils les soumettent d'une manière ou d'une autre à l'autorité de l'État. Tous les leviers de la trêve sociale n'ont pas été activés. Parce que cette trêve-là, nous l'avons signée et elle prévoyait que dans chaque ministère technique, il y ait des cas de discussion. Cela n'a pas encore été mis en place. On ne peut pas dire que la trêve est rompue. Au contraire, c'est une interpellation qui est faite pour que les responsables ouvrent les oreilles et les yeux sur les préoccupations des fonctionnaires.
Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, c'est une journée sans taxi à Niamey. Le principal syndicat des chauffeurs de taxi a appelé à un arrêt de travail de 24 heures pour demander au gouvernement de revoir à la baisse les prix des carburants. Depuis que le Niger a commencé à exploiter son pétrole en 2011, le prix du litre à la pompe est plus élevé que lorsque le pays importait les hydrocarbures. Nous faisons le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Quelques rares taxis ont circulé ce matin dans les rues de Niamey. Beaucoup de citoyens, dont c'est le principal moyen de transport, ont eu du mal à rejoindre leur lieu de travail. Les plus chanceux ont bénéficié de la solidarité en ce genre de circonstances.
Dans mon quartier, déjà les taxis étaient rares bien avant la grève. Et là, aujourd'hui, avec la grève, c'était plus sérieux. J'ai dû prendre beaucoup de personnes qui sont sur mon chemin pour un peu les amener au centre-ville.
Que moi, je suis indépendant, en ce sens que j'ai ma moto. Et tout au long, en tout cas, de mon chemin, j'ai dû voir beaucoup de gens. Finalement, ma moto, je ne peux que prendre une personne. Et même ça, c'est un risque pour moi. Mais en même temps, j'ai eu pitié d'un élève qui partait à son établissement. Je lui ai diminué la route.
Le principal motif de la grève, c'est la demande d'une réduction des prix des hydrocarbures à la pompe, une revendication que le Senko Taxi, principal syndicat des conducteurs de taxi, a posée au gouvernement depuis 2011. Mahamadou Gamaké, secrétaire général du Senko Taxi.
Nous avons choisi la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. C'est la date anniversaire de l'inauguration de Soraz. La raffinerie, la société de raffinage des hydrocarbures. Donc, nous sommes revenus en cette date pour demander de notre plateforme revendicative au point 1 la réduction conséquente des prix des hydrocarbures. Tous les Nigériens, pendant 7 ans, sont en train de réclamer cette réduction. Et malgré toutes les propositions que l'État du Niger a fait à travers le ministère de transport, le ministère de pétrole et autres, et jusqu'à présent, les gens ne voient que de la poussière.
En 2015, un accord avait pourtant été signé pour parvenir à cette réduction entre les deux parties. 3 années plus tard, il n'est toujours pas entré en vigueur. C'est donc pour rappeler au gouvernement son engagement que cette grève a été lancée.
En dehors de ça, il y a aussi le problème qui revient, qui est récurrent, de la tracasserie administrative, des tracasseries policières. Aujourd'hui, nos militants font l'objet de contrôles permanents, inopinés et vider toutes les unités de la police. Nous savons qu'avant, il y avait une seule unité qui est spécialisée dans le contrôle des documents administratifs. C'est la police qu'on appelle UPR, l'unité de la police routière. Mais aujourd'hui, les anti-émeutes, les anti-drogues, les anti-ceci, les anti-cela, on ne sait même pas qui nous doit nous contrôler. Donc vraiment, par rapport à ça, nous voulons savoir exactement pourquoi ces tracasseries.
Beaucoup de citoyens se disent solidaires de cette action du syndicat des conducteurs de taxi. Comment comprendre en effet que l'essence coûte plus cher à la pompe que lorsqu'il était importé, se demande-t-il. Aucune autorité n'a réagi à ce mouvement de grève des taximen. Leur syndicat projette d'intensifier le mouvement dans les semaines et mois à venir. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, un premier train parti de Pointe-Noire a pu rallier la capitale après 2 ans d'interruption de trafic à cause de la guerre dans le Poule. Ce train, qui transportait du carburant, est également considéré comme un retour, comme un signe de retour à la paix. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Ce sifflement en plein Brazzaville confirme bien l'arrivée à la gare centrale du train de marchandises qui a rallié la capitale en partance de Pointe-Noire à 510 km. Depuis 2 ans, cette scène n'a plus eu lieu. À cause de la guerre dans le Poule, la circulation du train a été suspendue. Pas seulement à cause des combats, mais aussi les miliciens ninjas avaient détruit plusieurs ponts sur la voie ferrée. Mercredi, le ministre des Transports, Fidel Dimou, a réceptionné le tout premier train qui a réalisé l'ensemble du trajet transportant du carburant. D'après le ministre, le train voyageur ne saura tarder.
Que le train puisse siffler encore, que le train puisse circuler entre Pointe-Noire et Brazzaville et vice-versa. Et aujourd'hui, à l'occasion de la grande fête de la République, le train est arrivé à Brazzaville. Des instructions ont été données, nous avons travaillé et nous avons atteint l'objectif. C'est pour nous une félicité, un grand bonheur. Et nous avons eu de la peine, justement, du point de vue de notre économie nationale. Il y a eu un véritable coup, un coup dur. Et je pense que avec la relance du chemin de fer, du trafic, eh bien, l'espoir, et nous allons le constater, que les choses vont redémarrer sur un bon pied.
Les cheminots, restés 2 ans sans travail et donc sans salaire, aspirent une nouvelle bouffée d'oxygène. Leur joie est à son comble.
Ah là, je suis très ému. Faire 2 ans sans salaire, c'est pas une mince affaire. Donc voir le train rentrer, je suis très ému. Tous les cheminots sont contents de voir le train. Mais ce que je vais demander, c'est juste que ce qu'on a subi, que cela ne se reproduise plus, plus jamais.
Nous sommes restés pas en chômage. Il y a une partie du chemin de fer qui travaillait, de Pointe-Noire à l'OTT. Et c'est l'OTT, Brazzaville, que les travaux ont été interrompus parce qu'il y a eu les ponts qui étaient bousillés. Bon. Mais là, on l'a réparé. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir notre premier train et le cheminot va retrouver sa vie.
La circulation du train facilite d'autres activités économiques telles que le commerce des produits agricoles près de la gare centrale de Brazzaville. Ici, toutes les vendeuses ont applaudi l'arrivée du train. C'est un signe de reprise économique, mais aussi de la paix retrouvée dans le Poule. 24 heures avant la réception de ce train, des images sur les réseaux sociaux annonçaient le déraillement d'un train dans le Poule, hypothéquant toute circulation. Information contredite aujourd'hui. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Joselle Morissin et Thomas Blondet, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.